Benoît Basirico et Cinésic dans Vive le cinéma sur Aligre FM pour presque une heure consacrée à la musique de film. Au sommaire de cette émission, deux films à l'affiche cette semaine et deux musiques singulières et percutantes, Diamant Noir et La Nouvelle Vie de Paul Schneider. Diamant Noir est le premier long-métrage de Arthur Harari et une première BO en solo pour le cinéma pour Olivier Marguery après un parcours au sein de Sid Matters, tous les deux précédés d'une jolie réputation dans le court-métrage. Avec nous, le réalisateur et le compositeur, Arthur et Olivier, bonjour.
Bonjour.
La Nouvelle Vie de Paul Schneider est le nouveau film du trop rare Thomas Vincent, 4 films en 17 ans depuis Carnaval en 99. Nous recevons le trio de Hit and Run, en tout cas deux d'entre eux, qui fait son retour avec après la révélation Les Combattants, qui leur a valu d'être nommés au César, Lionel et Benoît Rau, bonjour.
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 Pour commencer, nous nous intéressons comme chaque mois à l'actualité des BO avec la musique de deux films présentés au dernier festival de Cannes et sortis en salle ces derniers jours, Julieta et The Nice Guys. Pour Julieta, Alberto Iglesias retrouve son fidèle cinéaste espagnol Pedro Almodovar pour la 10e fois avec une musique entre dissonance et douceur. À l'instant, après Julieta, c'était The Nice Guys, musique de David Buckley et John Ottman, qui signe une musique pour cette comédie policière de Shane Black, avec Ryan Gosling et Russell Crowe, ambiance rétro pour ce film basé dans le Los Angeles des années 70. Première actualité de la semaine, Diamant Noir, le film sort le 8 juin prochain, Arthur Harari, le réalisateur, Olivier Marguery, le compositeur, sont avec nous, rebonjour. Alors, Olivier, multi-instrumentiste au sein de Sid Matters, puis un premier album solo en février 2016, Vous avez signé la musique de ce thriller singulier et fascinant, premier film de Arthur Harari, partition au lyrisme baroque. Moi, ça m'a rappelé un peu le Pino Donaggio de Palma, une touche aussi allemande. J'ai aussi pensé à Pierre Rabin chez Fassbinder, un sens un peu de romanesque noir. Cette musique est en totale cohérence avec l'image du film, puisque la photo du film est aussi assez... Voilà, c'est un film assez très formel. Peut-être Arthur, pour commencer sur cette démarche très formelle, est-ce que, justement, avant de vouloir raconter une histoire, est-ce que l'idée, c'était aussi de faire un film formel ?
Non, je dirais pas que c'est avant, mais c'est avancé, ça a avancé ensemble, quoi. J'ai du mal à penser autre chose d'abord que raconter une histoire. Donc j'avais ça comme un premier fil qui est moi ce qui me rattache au cinéma depuis que je suis enfant et avant le cinéma la bande dessinée, enfin je sais pas comment dire, c'est le biais toujours par lequel je rentre, c'est comment raconter un truc. Après plus je fais des films, parce qu'avant celui-là j'ai fait des courts moyen-métrage, plus l'entremêlement du récit et des jeux formels ou du travail formel jusqu'à même un décrochage parfois assez grand avec le réalisme m'intéresse. Et la musique, c'est la première fois que je faisais appel à quelqu'un pour composer une musique, et j'ai la sensation que c'est évidemment un des piliers les plus puissants pour faire basculer du côté de l'imaginaire.
Pourquoi le choix d'Olivier Margery ? Vous le connaissiez, j'imagine
On se connaît d'abord par une de mes meilleures amies qui s'appelle Chanty, ma suite, qui est la compagne d'Olivier. Et par ailleurs, moi je connais sa musique, qui est effectivement très différente de ce qu'on a fini par faire, ce qu'il a fini par faire pour Diamant Noir. Mais enfin, le talent du bonhomme est tel que j'avais l'impression qu'il pouvait à peu près me proposer tout ce que j'aurais pu lui demander. Non, enfin, je veux dire, il y a une forme de je sais pas, de virtuosité chez lui et d'ouverture qui me semblait évidente, quoi.
Vous avez cité Chanty Massud, on en parlera tout à l'heure brièvement, mais en tout cas elle est aussi réalisatrice. Vous avez Olivier Margery composé des musiques pour ses courts-métrages.
Oui.
Qu'est-ce que ça a changé pour vous de faire un long-métrage ?
Oh, c'est pas la même implication en termes déjà de temps et d'énergie, en fait. Souvent dans un court-métrage, du fait de la durée du film, on va sur quelque chose qui est beaucoup plus resserré et avec une couleur qui est tout de suite donnée et avec très peu de thèmes finalement, souvent un ou deux qui sont développés. Tandis que sur un long métrage, il y a toute une partition à créer, à accompagner tout un récit. Donc du coup, le travail n'est pas tout à fait le même. Même si fondamentalement, c'est assez proche, on va travailler à partir d'images et essayer de trouver une place musicale pour ponctuer ce récit. Mais c'est vrai que dans un long métrage, il y a un travail qui est beaucoup plus fourni.
Diamant noir, voilà, ce thème, finalement, c'est le thème du film, on peut dire ça, Olivier Margery ?
Oui.
En fait, pour ce film, on est parti d'un thème qu'Arthur avait, au moment de l'écriture, si je ne dis pas de bêtises, ouais. Qui était un thème qu'il m'avait donné, qu'il avait enregistré en le sifflant. Il m'a dit, voilà, moi j'aimerais bien partir de cette matière-là, je crois que c'est pour moi l'identité musicale du film, et puis même, je crois qu'au début, on évoquait le fait qu'il n'y aurait presque que ça. Enfin, oui, tu moi, disais, moi je veux très peu de musique, je peut-être deux fois le thème dans le film, un truc comme ça. Et puis donc moi je suis parti de ça. Il m'a dit voilà, dans un premier temps, j'aimerais que tu instrumentes ce thème, essayer de faire des essais, que tu me proposes des choses. Donc je suis parti de ce thème. Moi, dans mon point de départ de ce travail-là, je voulais qu'il y ait une instrumentation très précise et qui tenait un peu tout le film. Je me disais que j'avais envie d'un truc très cohérent d'un point de vue musical et dans les sons qu'on allait utiliser. Donc un des premiers enjeux pour moi, c'était de proposer à Arthur surtout des couleurs d'instruments. Je voulais un instrumentarium assez serré, donc on faisait des échanges, je partais de son thème et puis j'essayais de l'arranger en mettant piano, on en parlait à l'instant hors antenne, mais essayer de définir des instruments, on a parlé de la flûte et du violon et des cuivres par exemple, c'était des instruments qui me tenaient à cœur et on faisait des essais comme ça. Et puis en fait au fur et à mesure que je faisais des essais, des thèmes aussi, des contre-champs en essais qui devenaient des seconds thèmes, Arthur me disait tiens ce thème là il est intéressant, j'aimerais bien qu'on puisse le développer aussi. Et en fait, comme tout ce travail-là s'est fait un peu en parallèle du montage, on s'est rendu compte au fur et à mesure du travail qu'il y avait besoin de plus de musique que ce qui était prévu et que du coup, toute une musique est née et s'est créée en même temps que le montage par un système d'aller-retour. Donc en fait, la composition, elle a été assez étrange parce que j'étais pris par ce premier thème et puis plein de choses se sont rajoutées et j'ai l'impression d'avoir composé cette musique en même temps que le film se faisait, en fait. J'ai eu l'impression de faire partie du processus et c'était assez agréable, en fait.
Et un réalisateur qui siffle un thème à un compositeur, c'est pas forcément fréquent. Est-ce que vous êtes un peu musicien quelque part ?
Non, pas du tout. D'ailleurs, en réalité, si je me souviens bien, je l'ai d'abord fredonné à mon frère, qui est le chef opérateur du film, et qui lui, contrairement à moi, il sait plaquer quelques accords sur une guitare. Même, il se démerde très bien. Et donc, c'est lui qui s'est enregistré sur GarageBand, je crois, en le sifflant. Et je crois que c'est ça que je t'ai filé.
Ouais, mais tu m'as envoyé surtout le sifflement.
Et je t'ai renvoyé
initial.
Plus tard un sifflement parce que j'avais l'impression
la vraie mélodie,
que mon frère avait un tout petit peu adapté. Et je suis vraiment assez obsessionnel, et en tout cas sur ce thème-là. En fait, en écrivant pendant, je sais pas, deux ans, je sais pas d'où il est venu ce thème, mais il est venu. Et il fonctionnait comme un leitmotiv obsessionnel, moi, pour écrire. Et il me semblait être la parfaite incarnation de l'obsession qui traverse le film. Est-ce que c'est inhabituel? Ça, j'en sais rien. Moi, j'ai pas tellement de. Moi, c'est la première fois, comme je disais, que je fais appel à quelqu'un. J'ai toujours eu des musiques dans mes films, mais souvent des morceaux ou des chansons qui sont joués en direct ou chantés. Il y a souvent, je me rends compte, quasiment tous les films que j'ai fait, un personnage chante une chanson.
Peine perdue, il y avait Bertrand Belin, le chanteur.
Donc oui, en réalité, Peine perdue, c'est une espèce de pont parce que la chanson de Bertrand, elle existait, mais je lui ai fait rajouter une chose, un prénom dans la chanson, donc c'était une première intervention, même si on peut pas dire qu'il est composé pour le film. Et voilà. Non, mais là, il y a eu un travail. Effectivement, quand on est parti au départ avec Olivier, moi, j'avais ce thème obsessionnel en tête, donc pour moi, c'était j'avais une idée très minimaliste, comme ça, le thème qui revient au besoin plusieurs fois. Et puis, j'étais assez réticent à aller du côté du score, quoi, de la composition. Petit à petit, ce qui voilà, comme tu disais, c'est devenu indispensable, l'identité lyrique du film. Parce que le film a par ailleurs une ambition lyrique, je veux dire, au sens large. Et donc, évidemment, la musique à un moment est devenue. Puis ça me plaisait tellement, en fait, ce qui développait le monde qui se créait de ce côté-là, qu'on a ouvert les vannes un peu.
Il y a de la flûte dans la partition. Est-ce que c'est. Arthur, vous affectionnez tel ou tel instrument que vous avez aussi indiqué au compositeur ou pas?
Alors, je crois que la flûte, oui. C'est parce que, il me semble. Alors, dans Peine perdue, en dehors de. Donc, Peine perdue, c'est le dernier moyen-métrage que j'avais fait. Et en dehors de la chanson de Belin, il y a un espèce de thème, mais qui est composé par Téléman, à qui je n'ai pas fait appel directement parce qu'il était plus disponible, mais j'ai repiqué un truc qui était sur YouTube, qui est un thème à la flûte assez magnifique. Et j'aime bien la flûte, j'aime bien les instruments qui sont des voix, quoi. Voilà.
Donc, bonne transition, Téléman dans Peine perdue. Ah. Cette flûte dans Peine perdue, cette flûte de Telemann, donc c'est une musique préexistante finalement, mais il y a un lien finalement avec Diamant Noir dans cette utilisation de la flûte, d'un instrument que vous appréciez. Et entre une musique préexistante où finalement on peut rien y toucher, et une musique originale où tout est à faire, ouais. Est-ce que c'est quand même beaucoup plus appréciable pour un réalisateur de pouvoir...
Ah bah c'est, je veux dire, ces deux continents, ça n'a rien à voir évidemment. Après, moi ce que je disais, c'est que j'ai, comme pas mal je pense de réalisateurs... en tout cas français, au départ, une appréhension, une peur à aller du côté de la musique de film, parce que ça ferait, ça serait trop potentiellement vulgaire, d'indiquer des émotions ou de venir plaquer quelque chose. Donc, j'ai, bon, moi, ça fait un certain nombre d'années que j'ai fait des films plus ou moins longs, mais c'est le premier long métrage, mais j'étais plutôt du côté de la raréfaction absolue, ou alors de la musique comme intégrée directement à l'action, c'est-à-dire on met un disque, on chante un truc, il y a un concert, il y a... Et donc pour comme je disais, un peu lâcher cette espèce de réticence, il a fallu, je pense, aussi cette ambition formelle du film dont on parlait tout à l'heure, qui consiste aussi à prendre plus de risques et à s'emparer d'un certain nombre de je sais pas comment dire, de figures, parfois potentiellement écrasantes, très romanesques, très amples, tout en essayant d'en faire quelque chose de singulier. Et c'est le cas avec la musique, vraiment, en tout cas tout ce qu'on a essayé de faire, et aussi à l'image, mais sans avoir peur non plus de faire appel à des motifs qui appartiennent au cinéma. Bon, en plus, c'est un film de genre. Enfin, c'est un film noir. Donc, à un moment, moi, j'aurais eu l'impression, si je n'allais pas dans ces endroits potentiellement un peu risqués ou un peu référencés, j'aurais eu l'impression d'avoir peur, quoi, de limiter quelque chose, quoi.
Et dans cette vraie unité musicale dans le film, il était question, par exemple, qu'il y ait un morceau de Gluck à la fin du film. Et pour cet souci d'homogénéité, finalement, c'est Olivier Marguery qui a remplacé cette musique préexistante. Hein, c'est bien cela.
C'est ça, oui. Dans le scénario original et dans même la première version du montage, il y avait un morceau de Gluck qui finissait le film. Et puis, je crois que c'est dans les premières projections un peu test qu'il y a l'idée qui a été émise que ça cassait peut-être quelque chose, qu'il y avait une unité musicale dans le film, et qu'on la perdait à la fin du film, qu'on en sortait un peu de façon bizarre. Et du coup, Arthur m'a proposé de composer quelque chose. Ce qui était un peu ambitieux, et ce qui m'a un peu... Moi, j'avais quand même assez bien défini la musique du film à ce moment-là. Il y avait déjà des thèmes qui étaient là, il y avait une couleur. Et je savais pas trop comment à la fois retrouver l'émotion qu'il y avait dans le morceau de Gluck, et à la fois reprendre ces éléments mélodiques et instrumentaux qu'on avait déjà définis. Donc j'ai cherché assez longtemps, je me souviens même qu'au moment où on a enregistré le morceau final, donc en studio, Arthur n'avait peut-être même pas entendu vraiment la version où j'ai des esquisses. Et du coup voilà, j'ai essayé avec ce morceau final de reprendre certains thèmes qu'on avait entendus et apporter une certaine nouveauté. Il y a notamment une guitare acoustique, qui est un instrument que j'avais pas du tout utilisé, qui fait le socle un peu du morceau final. Et on retrouve les trois instruments solistes qu'on a entendus pendant le film, c'est-à-dire donc la trompette, la flûte et le violon, qui se mêlent en reprenant des bouts de thème, en reprenant un thème nouveau, et qui finissent par se mélanger ensemble et finissent à l'unisson. Et c'était pour moi une façon de clore le film. J'aimais bien l'idée que ces trois instruments qui avaient été comme des voix, parallèles au récit qui pouvaient raconter une histoire, pouvaient se retrouver à la fin et donc terminer ensemble pour sortir du film.
Le thème et ses variations, Diamant Noir, musique d'Olivier Marguery. Voilà, on vient de réentendre ce thème entêtant dans Diamant Noir, le film d'Arthur Harari, musique d'Olivier Margery. Ce thème entêtant, et puis y a aussi justement ce côté entêtant n'est pas là par hasard, il est aussi présent dans le sujet du film, cette soif de vengeance du personnage, film de genre, Arthur. Il y avait aussi voilà ce côté entêtant, finalement c'est presque la musique du personnage.
Ouais, clairement. Alors le film entier est une plongée subjective dans un monde, mais à travers le regard et vraiment l'imaginaire assez problématique du personnage principal qui s'appelle Pierre. Donc oui, on peut considérer que le film entier se passe dans sa tête. En tout cas, le réel passe réellement fortement par le filtre de son regard et de ses affects. Et donc la musique est une musique qui est dans sa tête, de même qu'elle était dans ma tête quand j'écrivais. Je pense que c'était une manière pour moi de très simple d'essayer de fusionner avec la subjectivité du personnage depuis l'écriture, et ça s'est poursuivi. C'est ça qui est assez émouvant aussi, c'est comment mais ça se passe à tous les degrés d'un film, comment une accroche au départ très solitaire, assez intime, même si j'ai pas écrit le film seul, enfin il est quand même né dans ma tête, etc. À un moment on propose à des gens de s'en emparer, des gens qu'on connaît pas forcément si bien que ça. Olivier, on se connaissait pas si bien au moment de se rencontrer vraiment pour commencer à travailler sur la musique. Et voilà, je trouve que c'est un truc assez beau, assez étonnant, de comment on propose de partager un truc au départ très intérieur et qui fusionne dans un film qui est, en tout cas, en l'occurrence, vraiment aussi une expérience intérieure. Il y a un truc comme ça que je trouve assez... assez chouette.
Nils Schneider est épatant dans ce rôle principal. Ce film-là, premier long métrage pour un réalisateur français, ça fait pas du tout, ça n'appartient pas du tout à la veine réalisme français. Ça fait, voilà, on n'arrive pas à lui donner une identité. C'est un peu comme, par exemple, le film de Paul Verhoeven qui était à Cannes. Elle est beaucoup plus français que ce film-là. Il a aussi une petite touche allemande, ce film. Est-ce qu'il a été compliqué à financer?
Pas tant que ça. Enfin, il a été, ça a pris un certain temps parce que le film est un peu cher si on compare à combien coûte un premier long métrage d'auteur, du cinéma d'auteur en France. On va dire qu'il coûte à peu près le double de ce qu'un film plutôt voilà coûte. Je veux dire un premier long métrage du cinéma d'auteur. Mais donc ça a pris du temps parce qu'en fait en dessous d'un certain montant, le film n'était pas faisable réellement, ou alors il fallait vraiment couper trop de choses. Il y a cette ambition narrative, le film s'est tourné dans 3 pays, il y a beaucoup de personnages, il y a beaucoup de décors, voilà. Donc c'est un film qui est en partie un film d'action, donc il y a des choses qu'on ne pouvait pas dévaluer, mais en réalité ça a pris assez bien en termes de financement. On sentait que les gens avaient envie de voir ce film sur le scénario. Quoi.
Et par rapport à la musique, il y avait les moyens de faire enregistrer avec des vrais instruments?
Il y avait, c'est un peu entre les deux en fait. On n'avait pas les moyens de faire vraiment de l'orchestre, donc il a fallu que je trouve un peu des techniques. Moi, je voulais qu'il y ait beaucoup d'instruments nobles, comme c'était ma première BO. Je voulais pas faire un truc fait à l'ordinateur, comme ce qu'on pourrait faire maintenant, parce que maintenant, avec certaines ressources, on arrive à faire des choses très bien avec des logiciels. Mais j'avais envie de passer par l'étape du studio et puis d'avoir des instruments qui pouvaient symboliser quelque chose. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai confié donc ces trois instruments dont on parle depuis tout à l'heure, ces trois lignes mélodiques, à des instrumentistes talentueux, et j'ai pris en charge le reste de l'instrumentation, c'est-à-dire tout le corps du son, les pianos, les guitares, tout ce qui est le grave et tout ça. Et on a réussi à aller en studio pendant 5 jours, donc c'est assez confortable. Parce que effectivement, sur des premiers films, sur un premier film, notamment pour un compositeur comme moi, encore assez jeune, on a souvent des budgets qui sont plus serrés, j'imagine, et qui ne permettent pas forcément d'aller en studio.
Alors, vous, Olivier Margery, vous venez de la scène, multi-instrumentiste au sein de groupes comme Sid Matters, Mina Tindall ou les Chic Rose. Est-ce que le passage de la scène à l'image était évident? Vous étiez un spectateur assidu auparavant qui vous a mené peut-être au cinéma?
Alors, ça s'est fait très, très naturellement, déjà parce que je l'avais déjà fait avec ces groupes-là, notamment Sid Matters. On avait déjà signé une BO d'un film de Nicolas Klotz qui s'appelle La question humaine. Et puis, j'avais fait d'autres expériences moi-même aussi avec d'autres projets, dont les films de Chanty Massud, dont on parlait tout à l'heure, un peu avant le film de Arthur. Et effectivement, le cinéma, c'est quelque chose que je suis depuis assez longtemps. J'avais fait un bac audiovisuel, donc j'avais réalisé moi-même un film à ce moment-là, un court-métrage. Et puis, Et voilà, j'ai toujours eu l'impression de, que ça cohabitait un peu dans ma vie. Les films, la musique, c'est quelque chose de, qui, dont je me sens assez proche. Effectivement, là, c'est le premier, c'est mon première expérience aussi, aussi riche et aussi forte de, sur un film, parce que c'était un film long et puis ambitieux, et donc il y avait une vraie volonté de faire une musique forte.
Et vous pourrez dire un jour, si vous, quand vous ferez le bilan de votre carrière, que vous avez un jour joué de la flûte à l'image dans un film érotique.
C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Dans un film de Chantilly, j'avais joué la partie, j'ai enregistré la partition musicale et j'apparais à l'écran en train de jouer de la flûte en slip.
Le film s'appelle While the Unicorn is Watching Me, je crois. Voilà, oui. On va l'écouter pour la France. C'est un film de Chantilly Massud ainsi que While the Unicorn is Watching Me, de film de Chantilly Massud, musique d'Olivier Margueri.
Bonjour, je peux avoir trois demi, s'il vous plaît. Bon, moi, c'est Charles.
Désiré.
Désiré, comme un tramway nommé Désiré.
Moi, c'est France.
France ? Ouah, je rêve. Les noms.
Après avoir entendu la musique de Olivier Margueri dans La France, pour la France, de Chantilly Massud, avec les dialogues d'ailleurs, puis ensuite la petite flûte de While the Unicorn is Watching Me, toujours de Chantilly Massud, à l'instant, le dieu Bigorne, moyen-métrage de Benjamin Papin, qui était présenté d'ailleurs au dernier festival de Brive, le dieu Bigorne, et c'était la musique d'ouverture du film, c'est-à-dire que le film, dès l'ouverture, on est dans une ambiance très particulière. Le festival de Pantin Côté Court, qui se déroulera du 15 au 25 juin, programme le dieu Bigorne, ainsi qu'un autre film de Chantilly Massud pour lequel vous avez fait la musique, Jeunesse. En pleine actualité, donc, Olivier Margueri, en plus de Diamant Noir. Peut-être un mot sur ce dieu Bigorne, cette musique dès l'ouverture, qui installe comme ça un climat qui n'est pas forcément justifié par le film, finalement.
Oui, oui, en fait, c'était une volonté de Benjamin, donc le réalisateur du film, qui est un ami d'Arthur. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Il avait entendu la musique de Diamant Noir. Et il voulait faire une ouverture assez monumentale, un plan fixe sur une forêt. Et juste derrière, arriver dans un récit beaucoup plus naturaliste. Il aimait cette idée de choc, d'interroger tout de suite sur la première image le spectateur, et après de le perdre en repartant de zéro quasiment. Et donc, il m'avait dit, voilà, je voudrais presque un chaos sonore qu'on arrive quelque part, ou un hurlement, quoi. Donc c'était ma mission, et j'espère que j'ai réussi à peu près.
Oui, c'est très réussi en tout cas. Il y a Benoît et Lionel Rowe toujours avec nous, qui seront nos deuxièmes invités. Peut-être là, vous avez des choses à... Tout cela vous évoque des choses dans ce travail à l'image ?
Bah, en fait, on se sent... moi, j'ai l'impression de parler le même langage, parce qu'on a pas mal... partager des aventures musicales communes avec des gens communs et avec l'envie d'utiliser très souvent le plus possible des vrais instruments, des vrais interprètes. On est particulièrement sensible à ça. Bon, on a partagé beaucoup de scènes Moi, je connais très bien Christelle Martinet, joué avec Naro Terrence. Lionel a joué avec Olivier. Voilà, donc, ça nous parle tout ça.
Et très longtemps, on a évolué. Enfin, encore aujourd'hui, on a eu des sphères. On s'est beaucoup croisés au studio Microbe à l'époque où ils étaient encore à Saint-Cloud. Et c'était vraiment. Enfin, pour ceux qui connaissent, c'était une aventure humaine assez forte parce que c'était un studio qui avait été lancé par Eric Neveu et Stéphanie Chey qui avait monté un label studio et ben il y avait plein d'assistants, plein de musiciens, ça venait de partout et comme c'était un studio aussi, il y a beaucoup d'interprètes qui venaient ou de musiciens qui venaient enregistrer. Il y avait des studios de répète. Enfin, c'était vraiment. C'est là, on s'est connus là. Voilà. Et donc, comme tu disais très bien, aujourd'hui, le cinéma, c'est une économie qui peut être parfois assez stricte, et surtout pour la musique. Et on retrouve beaucoup de gens qui enregistrent des musiques de films avec 50 gigas de samples. Et c'est très important de continuer, je pense, cet artisanat aujourd'hui de jouer, de faire venir des interprètes, des gens de talent. C'est de l'émotion vient de ça en tout cas.
Et on peut remarquer en tout cas que le milieu de la musique de film est un petit milieu, on se connaît, et il y a une tendance aujourd'hui que les artistes de la scène font des films. C'est un peu aujourd'hui très majoritaire, ce qui n'était pas forcément le cas il y a quelques années où il y avait vraiment des compositeurs de films qui faisaient
sûr,
ça
ouais.
Et qui étaient un peu caméléon, peut-être pour conclure avec Diamant Noir, Olivier Marguery, Arthur Harari. Le fait que Olivier fasse de la musique de film aujourd'hui, c'est parce que en venant de la scène, il y a un univers aussi propre que vous amenez au cinéma. Contrairement à, même si évidemment Diamant Noir est très très loin de ce que vous faisiez pour les albums, mais disons que c'est différent par rapport à des compositeurs de musique de film qui seraient un peu plus caméléons, à qui on demanderait de faire une valse, un tango dans un film par exemple.
Ben moi d'ailleurs à ce propos-là, avant de demander à Olivier, comme je dis que je connaissais mais pas si bien que ça, et le film est coproduit par la Belgique, la Flandre, et le coproducteur m'avait mis en contact avec un compositeur de musique de film, exclusivement de musique de film, qui s'appelle Raph Keunen, et qui a notamment fait la musique de ce film qui s'appelle Bullhead, qui est un film flamand, voilà, qui avait fait beaucoup de bruit, qui est un film assez fort, donc j'ai rencontré Raph en question, et il était très emballé par le projet. Et donc je lui avais légué la même chose qu'à Olivier, c'est-à-dire mon thème, je lui avais dit, voilà. Ça s'était très bien passé la rencontre, et il m'avait envoyé des premières choses, et mon thème était nulle part. Et alors c'était vraiment bien ce qu'il m'avait envoyé, c'était très orchestral, bon, c'était des choses sur ordinateur, c'était des maquettes, très orchestrales, très... mais il n'y a pas de thème. Et je lui ai dit, j'ai essayé de lui dire délicatement que c'était un peu à côté de ce que je voulais, et que moi je voulais que mon thème soit au cœur du truc, et que ou alors il fallait qu'il remplace ça par un thème, enfin que, et donc on aurait très bien pu continuer et tout, mais j'ai senti qu'effectivement ses habitudes de musicien de film très talentueux, très mais comment dire, prenait le pas presque sur un endroit de même d'écoute de d'une sensibilité que je lui proposais. Alors j'en suis sûr, encore une fois, qu'on aurait pu travailler ensemble, et voilà, mais enfin j'avais déjà l'idée d'Olivier en tête parce que j'avais entendu des choses qu'il avait fait notamment dans les films de Chantier Massud, et donc effectivement je pense que il y a une autant on peut considérer qu'il y a un risque à faire appel à quelqu'un dont on n'a pas entendu encore une musique de film, de long métrage ou quoi, mais en même temps moi c'est ce risque là qui m'intéresse. C'est un moment donner une possibilité de singularité. Évidemment, on n'a pas encore, on n'est pas forcément rassuré immédiatement à l'oreille. Voilà, moi je trouve qu'en tout cas c'est des endroits excitants.
En tout cas, bravo, ce résultat est très réussi, et à voir et à entendre dans les salles Diamant Noir ce mercredi 8 juin. Diamant Noir, musique d'Olivier Margery pour ce film d'Arthur Harari qui était nos premiers invités. Merci à vous deux. Vous restez Merci. Avec nous, vous pourrez toujours réagir à la deuxième intervention. En attendant de recevoir, d'écouter Hit and Run, Lionel et Benoît Rowe, une avant-première, une sélection cannoise à la quinzaine des réalisateurs pour Folle de Joie, le film de Paolo Virzi et la musique de son frère Carlo Virzi, également une histoire de frère pour Folle de Joie, musique. Folle de Joie, musique de Carlo Virzi, partition dans laquelle on retrouve d'ailleurs une flûte, peut-être une thématique dans cette émission, pour ce film qui est à la quinzaine des réalisateurs sur cette femme, Valeria Bruni-Tedeschi, qui incarne Béatrice, mythomane, patiente de la Villa Blondi, institution thérapeutique, et on sent dans cette musique ce côté un peu trouble mental de ce personnage. Hit and Run, donc, hein, c'est un trio, mais nous recevons les frères Lionel et Benoît Rowe, et puis le troisième larron est Philippe Dezé, qui est très bien. Alors, vous êtes ici pour La Nouvelle Vie de Paul Schneider. Voilà, question d'accent.
Exactement comme, l'acteur, parce que c'est assez étonnant, mais cet acteur qui joue dans Diamant Noir est le fils de Géraldine Pellas et de Thierry Lhermitte dans La Nouvelle Vie de Paul Schneider.
Ouais, Schneider.
Donc, tout cela fait des points communs. C'est incroyable.
On a
chaud.
Il y a de la flûte dans ma vie ou pas ?
Bien évidemment qu'il y a de la flûte.
Il y a aussi de la flûte.
Je suis flûtiste, donc j'ai joué plein de flûtes dans la BO.
Et oui. Thierry Lhermitte et Géraldine Pellas au Québec, dans la neige. Suite à un accident et la perte de sa fille, Thierry Lhermitte n'a plus goût en sa vie et son travail. Sa famille le méprise. Alors que ses enfants veulent qu'il poursuive les démarches judiciaires pour obtenir ses indemnités, il plaque tout pour devenir promeneur de chiens. C'est un film tendre et caustique. Comment vous avez abordé ce film de Thomas, pour Thomas Vincent, qui était très rare d'ailleurs au cinéma, c'est son grand retour. Comment cette collaboration s'est déroulée déjà? Comment vous avez été choisi par Thomas Vincent, qui était plutôt se dirigeait plutôt vers des compositeurs classiques?
Alors c'est assez drôle parce que Mike Fromentin, qui est son monteur, aime beaucoup travailler avec Jeanne Trélu de Criminol. Et ils l'ont questionné, en fait, ils lui ont demandé, tiens, en fait, on va faire ce film, voici le pitch, qu'est-ce que tu auras en tête? Et Jeanne, qui fait de la supervision musicale depuis très très longtemps, leur a dit, essayez Hit and Run, ils sont super, ils sont géniaux, ça pourrait vraiment coller, et ça a collé très très rapidement, en fait. Et ce qui est assez drôle quand on fait la musique de film, c'est de, je pense qu'il y a un moment qui est vraiment important, c'est de voir le film pour la première fois, même si ça n'est qu'un montage pas définitif, s'il y a des musiques collées dessus qui n'y seront pas au final, la première impression est toujours très très importante. Et quand on l'a vu pour la première fois, on a eu une très très forte approbation au sein de nous trois. On a vraiment beaucoup aimé le film tout de suite, en fait.
La nouvelle vie de Paul Schneider, musique d'Hit and Run. On l'entend là, il y a un bon équilibre entre l'organique et l'électronique. Vous avez d'ailleurs signé la musique des Combattants, ou qui était un peu considérée comme l'ABO de musique électronique de l'année. Et là, comment vous avez justement géré ces deux équilibres organique-électronique?
C'est un petit peu pareil, c'est un peu le même. Là, par exemple, c'est composé... avec un vieux synthétiseur Korg, c'est toujours le même, et des chœurs, des vraies guitares, des percussions jouées, donc c'est tout cela. Et en fait, il y a quelques éléments très modernes, faits souvent par des machines qui s'appellent réacteurs, mais qui sont réchauffés dans des amplis, dans des effets, mais tout cela mélangé quand même à de la matière assez classique. Il y a beaucoup de flûtes traversières, beaucoup de chœurs, des ukulélés, des guitares. Voilà.
Est-ce que Thomas Vincent était très directif? Il vous a pas sifflé le thème cette fois, pour comme Arthur pour Diamant Noir, mais est-ce qu'il était directif? Vous donnez peut-être des références?
On avait il y avait deux références principales. Il y avait au début, ils avaient utilisé pas mal de morceaux de la BO d'Utopia et d'un autre côté aussi celle de Gone Girl. C'était juste pour justement rentrer dans la tête de Paul Schneider qui vient d'avoir un accident d'ascenseur et qui a perdu sa fille. Et sa fille qui ne voyait pas parce qu'il avait divorcé entre temps, il avait quitté la France pour s'installer au Canada. Bon, je ne vais pas spoiler le film. Mais donc, y avait toute une souffrance intérieure à définir, en fait. Donc, il y avait différents degrés de langage à souligner en musique. Et donc, il fallait, à notre sauce, en fait, faire une synthèse. Et aussi, il y avait la musique de Tim Burton, moi, qui apparaît 5 fois dans le film. Donc, il fallait... prendre Utopia, Gone Girl et Tim Burton et fabriquer un tout, en fait, donc avec de l'électronique et des instruments classiques, en fait. Et donc, ça, c'est drôle parce que chez nous, par exemple, Benoît joue est multi-instrumentiste, il joue de la flûte, de la guitare, des percus, du clavier, il chante. Moi, je vais plus vers les séquenceurs, les boîtes à rythme, les basses, des trucs. De la séquence, des trucs vraiment électroniques. Philippe, lui, c'est plus des batteries, des guitares. Il a un côté. C'est vraiment l'entre-deux entre nous. Mmh. Et ensuite, quand on a écrit, on mélange beaucoup nos pistes, on s'échange, on joue les uns avec les autres. D'accord. Et donc, ça fait beaucoup de surprises, en fait. Mais on part d'une base commune assez forte.
Et vous citez Timber Timbre, il y a des chansons de Timber Timbre qui est un groupe canadien, ouais. Donc ça correspond aussi à la géographie du film. Et parfois, on a une bonne transition entre votre musique et celle de Timber Timbre, comme si votre musique parfois était une prolongation de l'instrumentation de Timber Timbre, je me trompe. Mais,
parce qu'on a repris les mêmes instruments de Timber Timbre, et puis même, moi je suis très séduit, enfin je suis fan de sa musique, et donc c'était pas très compliqué à... enfin avec notre peu de talent qu'on a par rapport à lui, mais c'était assez assez évident quoi de se rapprocher de ça en utilisant des comme on disait des mélotrons tout à l'heure, des flûtes traversières, des voix, des shakers, des
voilà. Il va falloir que tu boostes ton ego un peu là parce que t'as du talent quand même.
Non mais je suis c'est vraiment lundi matin, fan, je suis fan de Tim Burton.
Et votre musique utilise aussi de la voix.
Ouais.
Mais pas de la voix chantée pour le coup. Pourquoi cette utilisation de la voix dans votre, dans votre partition?
Si, non, il y a beaucoup de voix chantées justement.
Ah, il parle des voix.
Enfin, quand je dis chantées, c'est-à-dire que c'est céleste, c'est fredonné.
Alors, pas de... elles sont parfois mises en avant, mais c'est plutôt rare. Moi, je fais beaucoup de chœurs qui sont souvent noyés, qui font des grosses nappes. Mais toutes les voix sont vraies, à part quelques-unes qui ont été enregistrées et rejouées sur des claviers. Mmh. Le fils de mon frère, par exemple, a chanté, Bruce. Et on a fait intervenir aussi une chanteuse qui s'appelle Kate Stable, et qui était aussi une artiste que j'aime beaucoup et qui s'appelle This is the Kit. Et voilà.
On va découvrir cette utilisation de la voix dans La nouvelle vie de Paul Schneider, votre musique Hit and Run. Magnifique partition, La nouvelle vie de Paul Schneider, musique d'Hit and Run, et cette musique là qui est très céleste avec cette voix. Finalement, vous n'êtes pas dans l'illustration première, c'est-à-dire qu'il y a dans ce film des moments d'émotion, évidemment très tristes, et aussi des moments de comédie. Et vous n'êtes pas là en train d'illustrer ce moment de drame, ce moment de comédie. La musique est au-dessus finalement, ce côté céleste, peut-être elle est un peu dans ce deuil, cette musique, de manière un peu, voilà... extérieur au réel.
Écoutez, c'est hyper gentil, merci beaucoup. C'est ce qu'on cherchait à faire, d'être assez sensible et surtout de ne pas appuyer comme des bourrins les émotions, essayer de trouver des chemins de traverse. Et là, cette scène, ouais, on est très content de ce morceau et en plus, c'est une scène assez surréaliste. Et je trouve que finalement, la musique est assez surréaliste. Il y a un petit côté Bach, mais fait au ukulélé, avec un vieux synthé analogique. C'est assez absurde et j'aime beaucoup cette track. On est tous sensibles à celle-ci.
Entre faire un film avec Thomas Vincent, qui a plusieurs films à son actif, ou Les Combattants, qui était un premier film, est-ce qu'il y a une différence ?
Il y en a pas, il y a toujours des morts au début, ça commence toujours par la morgue. Et après c'était vraiment différent, après comment tu définirais la différence entre les deux? Il y a l'expérience de Thomas Vincent qui était
Moi je pense que c'était en fait c'est un premier film Arthur je sais pas si tu partageras ou pas, mais je crois qu'un premier, moi, j'avais fait Les Beaux Gosses aussi. Alors Les Beaux Gosses, à chaque fois, c'est différent. En fait, on peut pas vraiment. En fait, ce qui était super avec Thomas Vincent, c'est que comme il a beaucoup de bouteilles, il s'y est pris très longtemps à l'avance et il savait vers quoi, ce quoi il voulait aller, en fait.
C'était un travail avec Thomas, c'était vraiment un travail de précision. C'est-à-dire que parfois, on a travaillé, on lui a proposé 5 chansons différentes pour une scène. Donc c'était quand même assez dur, mais une fois qu'on avait la chanson, on n'était vraiment pas sorti de l'auberge. C'est-à-dire que c'était vraiment du sur-mesure de chez sur-mesure.
Avec les combattants aussi.
Parfois des coups de chance. Où le plus dur a été la scène du restaurant avec Thierry Lhermitte et sa fille, le flashback. Et là, je remercie particulièrement Kate qui a réussi à donner une émotion à la chanson et on a été sauvés par elle.
Eh bien, écoutons Les Combattants pour se remémorer cette partition. Les Combattants, César nommé au César 2015. Et à l'instant, après avoir entendu la musique des combattants, il s'agit des Beaux Gosses, les Beaux Gosses, donc le film de Riad Satouf, musique d'Hit and Run, ou en tout cas l'un d'entre eux, musique de Lionel Flairs, les Beaux Gosses. À l'instant, après les combattants, c'était les Beaux Gosses, là c'est que l'un des musiciens d'Hit and Run, Lionel Rowe, Lionel Flairs, c'est sous le teint de Flairs.
Parce qu'en fait, je fais des disques. Quand je fais des disques, je m'appelle Flairs. Dans le civil, je m'appelle Lionel Rowe. Et quand je fais de la musique de film, je m'appelle Lionel Flairs. Voilà, je sais pas trop pourquoi, mais voilà, c'est.
Et les Beaux Gosses de Riad Satouf, je crois que Riad Satouf a participé aussi à la BO.
Ouais, alors c'était assez drôle parce qu'on s'est rencontrés en 2007 sur Facebook. C'était très très drôle. Et il adorait ma musique et il m'a dit « Ah, viens, je voudrais bien faire je voudrais bien que tu fasses la musique de mon film. » Et il est lui aussi musicien et un jour, il m'a donné ses maquettes et il y avait un truc super en fait. Il y avait un track qui était vraiment génial et donc je l'ai réarrangé, j'ai rajouté une mélodie dessus, je l'ai remis un peu aux normes avec une drum machine et un synthé. Et une basse, et puis c'est parti de là, en fait.
Je crois que Lionel est obligé de diviser le tempo par 3, parce que Riad est un des gars sur Paris qui joue le plus vite de la guitare. Ouais. Et voilà.
Et Les Beaux Gosses, c'est votre film un peu la plus proche des albums que vous faisiez, finalement.
Ouais, carrément, ouais.
Moi, ça a un peu rien à voir. Moi, je faisais vraiment de la pop, un peu foutraque au début, qui est devenu plus orchestral. Mon nom de groupe, c'était Ben Symphonique Orchestra.
C'est toujours.
C'est toujours. Même si j'ai pas trop le temps de m'y atteler, mais voilà.
Alors votre actualité, on y revient. La nouvelle vie de Paul Schneider. Nouveau morceau qui est le thème de Marie. Marie, c'est cette fille disparue. Donc c'est un thème assez toujours mélancolique pour ce deuil de ce père incarné par Thierry Lhermitte. La nouvelle vie de Paul Schneider.
Et chanté par Kaït.
Thank you.
magnifique partition pour la nouvelle vie de Paul Schneider. Le film sort mercredi prochain, tout comme Diamant Noir. Et pour la nouvelle vie de Paul Schneider, il y a un CD disponible chez Music Box Records. Vous avez travaillé sur cette édition ?
Écoute, moi je trouve que c'est hyper important de sortir. Là, on a fait 45 minutes de musique et c'était vraiment. C'est dommage de ne pas sortir. En tout cas, elle existe déjà depuis lundi sur en digital sur iTunes, sur Deezer, Spotify et tout le reste. Et là, c'est aussi Eugène de Criminol aussi qui supervise un peu tout ça, qui s'occupe de ce genre de avec les producteurs du film qui sont aussi producteurs de la musique de ça en fait. C'est du boulot.
Ouais.
Mais non, on est super content. Je crois que c'est une BO dans laquelle on a mis beaucoup de nous-mêmes. On a vécu avec le film pendant 5 mois. Et c'est génial que ça existe, que ça continue comme ça. Et ce que j'adore dans ce format aussi de la musique de film, c'est que ça va durer des années, ça va durer après notre mort, j'imagine. Enfin, ça continue. Non, mais c'est parce qu'on fait beaucoup de formats courts, en fait. Ça nous arrive de faire des pubs, des choses comme ça. Des formats qui meurent au bout d'un an ou 6 mois. Et là, ça vit et c'est chouette.
Alors parfois, dans une année, il y a des mois ou des semaines où il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Et là, en une semaine, la même semaine, il y a donc Diamant Noir, il y a La Nouvelle Vie de Paul Schneider, qui sont vraiment le cinéma français qu'on aimerait voir plus souvent. Donc vraiment, allez-y, mercredi prochain. Et merci à vous, donc, Lionel et Benoît Rowe, Arthur Harari, Olivier Marguerie, pour ces magnifiques travaux. Et puis un autre film, comme si ça ne suffisait pas, magnifique à voir mercredi prochain, la musique de Cliff Martinez pour The Neon Demon de Winding Refn. On se quitte là-dessus.